tout en noir. Par la nuit, de poids et d'angoisse, quand on rentre, le carnier plein, coucher auprès de sa Françoise, le garde au châtelain. Ce chien vendu qui fait sa ronde vous happe dans le noir. J'aime la Françoise qui est blonde, faut pas voir tout en noir. Même le jour devient sombre, car les juges, ces salopins, vous foutent des 6 mois à l'ombre pour 3 méchants lapins. En prison, le cœur pleure et gronde, seul, tout seul dans le noir. J'aime la Françoise qui est blonde, faut pas voir tout en noir.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment chaque mercredi matin, avec aujourd'hui le CRPA, André Bitton.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on a une actualité qui est quand même un peu chargée. Je voudrais commencer par une annonce. Comment ça s'appelle, une annonce mortuaire, comment on dit, hein, de décès, de décès en série, qui prouve que pour des gens qui sont psychiatrisés jeunes, il est impératif tout de même de militer pour ses droits de malade, à tout le moins, d'essayer de se renseigner, d'essayer de savoir quoi faire et de chercher des alternatives, puisque très sincèrement, de mon expérience d'ancien patient, le moins qu'on puisse dire, c'est que je regarde les avis de décès et je vois que des gens que j'ai connus il y a très longtemps dans les files actives quand j'étais patient à l'hôpital de jour meurent les uns après les autres. Ainsi, j'ai été patient à l'hôpital de jour en 88-90 au Centre des Capitans à Paris, au quartier latin près de la Sorbonne et du Collège de France. Un jeune homme, né dans les années 60, était là, très bon patient, ayant développé une schizophrénie, très bon, familialisé. J'ai appris son décès, il avait 52 ans. Un autre avec qui on faisait la sortie cinéma les samedis, qui est né 55, qui était également bon patient, très familialisé, très dans les rangs, et très normopathe, comme on dit, normal, tout simplement normal, mais bon, ayant développé une pathologie qui aurait pu, à l'époque il n'y avait pas d'alternative, qui aurait pu en sortir mort 58 ans. Bon malade, etc., etc. Une ancienne secrétaire franco-algérienne que j'avais connue là-bas, qui était très dépressive, mais qui avait quand même eu une vie active. Elle a pu quand même durer jusqu'à l'âge de 65 ans. Bien, elle prenait énormément de traitements. Et c'est ainsi de suite. Un autre patient que j'ai connu dans un autre hôpital de jour, qui lui, au passage à la majorité, avait commis un acte grave, et qui du coup en avait conçu un immense sentiment de culpabilité, ce qui lui faisait admettre des doses d'injection retardaldol beaucoup trop rédhibitoires, effondrement cardiaque à l'âge de 42 ans. Bien. Etc. Parmi les gens très très coniques que j'ai pu connaître et qui étaient institutionnalisés, les institutions les ont fait durer jusqu'à 65, 67, 68 ans, pas plus. Mais je veux dire, quand on voit cela, quand on voit à la fin, sur leurs dernières années, dans quels états de déchéance ces personnes étaient, alors on se dit quelque part, ça fait peur. On se dit qu'il faut réagir, qu'il faut mettre le pied au fond de la piscine et qu'il faut se renseigner sur ses droits de patient. Non, en face, ils n'ont pas le droit de vous imposer hors cadre des contraintes aux soins pareilles. Non, ils n'ont pas le droit de vous faire intérioriser une telle déshumanisation. Donc, c'était mon annonce... comment on dit mortuaire, comment on dit une...
J'ai oublié comment ça s'appelle, oui, c'est un...
La rubrique nécrologique.
Oui, bravo. Aujourd'hui, on va aborder la jeunesse d'Hervé Bazin.
Grand écrivain français, né 1911, meurt en 1998, qui a été connu par des blockbusters dans l'après-deuxième guerre mondiale, notamment Vipère au poing, 48, où il règle ses comptes avec sa mère, le personnage célèbre de Folcoche, mais également toute une série de romans, dont une longue participation à la lutte contre les asiles d'aliénés, à travers notamment La tête contre les murs de 1949, un an après Vipère au poing, qui est un acte d'accusation qui se termine bien, d'ailleurs, il y en a bien, un acte d'accusation contre les asiles d'aliénés d'antan, la loi de 1838, l'unité pour la difficile Henri Collin, et dont une partie se passe à Vaucluse. Bien. Et alors que Hervé Bazin, étant jeune, a essuyé des internements à répétition au Sésame d'Angers. Alors, il y a une biographie critique qui est sortie sur lui par une journaliste d'investigation dont je vais retrouver, voilà, Émilie Lanaise, qui vient de sortir une contre-enquête sur Folcoche, pour réhabiliter la mère d'Hervé Bazin, qui a été tellement persécutée par son fils, puisqu'il l'a, mais démoli dans Vipère au poing, c'en est devenu un personnage culte. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est... Alors, d'abord, on apprend dans cette enquête document en main, document de police, document d'archives, que Hervé Bazin, qui a été rajeuni de 6 ans, pour sa publication, on l'a réputé être né en 17, alors qu'il était né en 11.
Par son éditeur.
Par son éditeur, oui, c'est-à-dire sa bio a été arrangée par son éditeur. Qu'en fait, Hervé Bazin, qui était né en 11, avait subi, comme tous les fils de la bonne bourgeoisie, une éducation très, très catholique, stricte, militaro, etc. Et qu'il s'était avéré très rebelle, très rapidement, et donc en état d'inadaptation... Or, l'enfance inadaptée, fugueuse, etc., était passible d'internement psychiatrique. Alors, comme c'était la bonne bourgeoisie, elle a même été envoyée dans un lycée militaire et ça s'est mal passé. Donc, en fait, il s'est passé que cet adolescent rebelle qui était Hervé Bazin a vrillé sombrement dans une délinquance qui est dénoncée dans cet opuscule de cette journaliste, mais qui, moi, personnellement, me le rend sympathique. tout simplement sympathique. Parce qu'on apprend que, bon, alors à titre, il faut voir ce que c'était l'éducation de l'époque, c'était une éducation très violente. Hein,
maltraitante.
Très maltraitante, bon. Et que donc, rapidement, alors il a chippé, famille très bourgeoise, hein, très catholique, très bourgeoise, de l'argent dans le porte-monnaie familial. Même adolescent, c'était les 400 coups, il a même cambriolé le domicile familial. Il s'est spécialisé dans les escroqueries à un titre, à telle enseigne qu'il est rentré dans la poste comme fonctionnaire gradé pour pouvoir faire des escroqueries avec les tampons de la poste. Et donc à telle enseigne qu'il a passé la Deuxième Guerre mondiale à Clairvaux. Alors, on ne savait absolument pas. Et donc, en fait, c'était un escroc émérite. Mais simplement, lorsqu'il a fini par écrire son opuscule, Vipère au point, son règlement de compte par rapport à sa famille, son éditeur a réalisé que cet ouvrage était vraiment quelque chose qui, après Deuxième Guerre mondiale, pouvait faire souche, quoi. Et il semble que, donc, finalement, c'est l'écriture qui l'a guéri. Et que donc sa mère aurait accepté d'être sacrifiée sur l'autel de la littérature parce qu'enfin son fils était guéri par la littérature. Bon. Enfin, moi je veux bien, mais cette réhabilitation me paraît quelque peu bancale quand on sait que l'éducation de l'époque était top violente. Mais top violente, et pour de bon. Hein. Et que bon. Alors, mais donc on apprend que finalement Hervé Bazin était un fils de famille bourgeoise, très catholique, etc. Qu'il a été mais top rebelle, top révolté, qu'il a vrillé dans une délinquance sombre à telle enseigne qu'il a fait des années de centrale, mais que finalement, quand il a pu émerger dans l'univers littéraire, alors là, il s'est épanoui dedans et a livré pendant toute une carrière une contestation très importante contre les asiles d'aliénés. Donc finalement, comment dire, des gangsters au grand cœur qui font œuvre littéraire, c'est pas mal quand même. Quand ils se battent contre l'injustice, ça va, on a peut-être besoin. Hein.
Maintenant, on va parler d'une QPC sur le collège interne pour les médico-légaux.
Alors, nous avons appris que, par une circulaire du Conseil constitutionnel, puisque je suis abonné aux alertes du Conseil constitutionnel, qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été admise à la transmission par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 17 octobre. Sur quoi ? Sur un article précis qui n'a pas été visé jusqu'à présent par le Conseil constitutionnel. L'article 3211-9 du Code de la santé publique a été introduit par la loi du 5 juillet 2011, laquelle loi avait comme propos essentiel de durcir terriblement, voire de rendre impossible, la levée des internements d'office pour les patients médico-légaux déclarés responsables pénalement. Que ce soit au titre, ces perpétuités psychiatriques, il y avait également cela, et il y avait également dans la loi du 5 juillet 2011 qu'on a réussi à voir par la QPC du 20 avril 2012, qui a entraîné la réforme du 27 septembre 2013 à l'initiative du député PS Denis Robiliard. Il y avait également le fait d'avoir été interné en UMD plus d'un an, bien, ou d'avoir eu des antécédents médico-légaux 10 ans en arrière. Donc toute une série de personnes pouvaient, et en plus les classements sans suite étaient inclus dans le fait que, si vous voulez, vous êtes convoqué en police parce qu'il y a un clash de voisinage, bien, on fait un classement sans suite parce que somme toute, bon, ça va, mais pour faire ce classement sans suite, on convoque l'autorité de police, convoque un psychiatre expert qui vient vous auditionner quand vous êtes en garde à vue ou en rétention préalable, hein, ou en audition libre, et qui va vous expertiser, vous déclarer irresponsable, et le parquet va charger la barque au niveau des incriminations, de sorte que, pour des délits qui ne sont pas forcément avérés, vous encourriez au moins 5 ans de prison. Et là, le régime dérogatoire s'applique au titre de la loi du 27 septembre 2013, alors qu'antérieurement, dans la loi du 5 juillet 2011, c'était classement sans suite, même pour des faits bénins, du moment qu'il y avait un classement sans suite avec déclaration d'irresponsabilité, paf, c'était le régime dérogatoire. Ce régime dérogatoire, il y avait deux clauses. Il y avait, enfin, plusieurs clauses. Il y avait la possibilité pour le préfet, à tout moment, de commettre un psychiatre expert, surtout en cas de désaccord avec le psychiatre de l'hôpital, d'ailleurs, si jamais il voulait l'élever. Et de l'autre, le fait qu'un collège interne, si le psychiatre de l'hôpital demande et est d'accord pour lever la mesure ou l'aménager, alors qu'il y a réunion d'un collège interne à l'hôpital de deux psychiatres, un psychiatre participant à la prise en charge, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge, et un cadre de santé, un cadre infirmier. Et sur un avis conforme, c'est-à-dire un avis, c'est-à-dire que les trois soignants tombent d'accord pour la lever, à ce moment-là, la demande est transmise à la préfecture ou au juge, selon, s'il y a une procédure judiciaire, et le préfet ou le juge, selon, doit commettre un collège de deux psychiatres experts près des tribunaux, qui vont expertiser le patient et donner soit un avis favorable avec le collège, soit un avis défavorable. Et même si le collège des deux experts, un des deux, n'est pas d'accord, à ce moment-là, la préfecture se réserve de commettre un autre expert. Donc en fait, ça revient à dire que toute une série de personnes ne récupèrent plus leur liberté, tout court. Alors, on s'est battu devant le Conseil constitutionnel avec la QPC 20 avril 2012. Et dans le cadre de cette QPC, cet article sur le collège interne, ce qu'on ne voit pas, c'est que le collège interne qui est fait de soignants dépendant de la chefferie de pôle, dépendant de la direction de l'hôpital, n'a pas d'indépendance. Il n'a pas d'indépendance puisque les hôpitaux sont tout de même dirigés par des directeurs qui sont désignés par l'ARS. Et l'Agence régionale de santé, c'est le bras armé du ministère. Donc il y a une descente hiérarchique qui fait que ces gens-là n'ont pas d'indépendance. Statutairement, les magistrats, normalement, c'est une autorité indépendante. Normalement, quand ça marche. Donc, qu'il y ait et un collège interne dont l'indépendance n'est pas garantie, et un collège de deux psychiatres experts extérieurs à l'hôpital, ce qui était le régime ancien de la loi du 27 juin 90, c'est quand même redondant. C'est des précautions superflues. À quoi ça sert? C'est accumuler des précautions, un régime d'experts plus expertise, de sorte que l'administration soit souveraine et que les choix de l'administration soient garantis. C'est-à-dire, en fait, comme dit si bien notre avocat Maître Franck Petit, c'est l'administration qui se contrôle elle-même. Bien. Et comme les magistrats sont tenus par les avis d'experts dans cette affaire, ce qui d'ailleurs pose souci, hein, parce que finalement, ils ne peuvent, quand on saisit, on demande de lever une mesure de SDRE, le magistrat judiciaire est tenu selon la même logique que la préfecture, voire décision de la Cour de cassation le 24 septembre. C'est-à-dire, la même logique que la préfecture suit, c'est le collège interne. La direction de l'hôpital envoie l'avis du collège interne à la préfecture. La préfecture commet deux psychiatres experts. C'est pareil pour le juge. Bien, l'autonomie et le pouvoir judiciaire en tant qu'indépendant est-elle garantie? Non. Et d'autre part, on a là un rajout, enfin comment dire, des précautions superfétatoires qui font que la personne reste bloquée dans l'institution en dehors des murs. Oui. Voilà. Donc on va se battre devant le Conseil constitutionnel, on va prôner l'abrogation de ce collège interne. On va prôner que cette abrogation, ça pose problème au titre de la préservation des libertés individuelles, que cette abrogation prenne effet immédiatement, sans effet différé. On verra bien. Hein. On verra bien. Bon, enfin, en tout cas, la polémique en vaut la peine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, on a des chances, étant donné que le régime dérogatoire de la loi du 5 juillet 2011 avait été résorbé par la réforme du 27 septembre 2013, avant les décrets OPSI Web de 2008-2019, il y a quelques chances que le Conseil constitutionnel déclare conforme ces dispositions. Mais au moins, on se sera battu. Au moins, on aura cherché à argumenter. Donc on verra bien. En tout cas, cela prouve que la lutte juridique contre les dispositions de l'époque sarkozyste, ça continue. Ça continue et ça continue d'autant plus que, à part la parenthèse de François Hollande, dès que Emmanuel Macron a pris le pouvoir, les malades mentaux dangereux revenaient dans la cible médiatico-politique. Hein. Bon, alors donc, on verra bien ce que cela donne. Et d'autre part, j'ai vu dans Mediapart Club. Attendez voir. Alors, sur le club de Mediapart, un billet de club d'un nommé Nathanaël Ducom est titré « Pour l'introspection des saints d'esprit ». Et là, on revient sur l'affaire Jean Pormanoff, ce streamer de son vrai nom Raphaël Graven, qui avait été utilisé de son gré, semble-t-il, pendant plusieurs années, avec l'accord de sa famille, dans des streams en direct avec où il se faisait humilier, casser la figure, etc., etc., en tant que personne vulnérable, hein, visiblement, avec un autre collègue qui était sous curatelle renforcée, qui est mort en direct. L'affaire Jean Pormanov, qui est mort en direct au cours de l'été. Et cette affaire avait été levée par Mediapart, par Marie Turcan. Et donc, cette personne, le rédacteur de ce billet, Nathaël Ducom, revient dans ce billet, titré pour l'introduction des Saints d'Esprit, sur ce décès de Raphaël Graven. Alors, au fond, qu'est-ce qu'il dit ? Le décès de Raphaël Graven à l'issue d'un live de 12 jours consécutifs sur une chaîne de streaming interactif est venu poser de manière brutale et grossière la question de la stigmatisation des personnes en situation de handicap ainsi que celle des personnes neurotypiques. Le succès de l'émission repose sur la satisfaction d'un désir de cruauté vis-à-vis des personnes en situation de handicap par l'exhibition de la maltraitance à leur encontre. Un spectacle rare, puisque jusque-là banni de l'espace public dans la plupart des pays occidentaux, mais pour certains, ce ne serait que le prolongement d'une société du spectacle décadente. Il s'inscrit effectivement dans une histoire particulièrement anecdotique et insignifiante de spectacle stigmatisant ou avilissant pour les personnes en situation de handicap. Je précise que pour ma part, quand j'avais 28 ans, mon père m'avait sorti, alors que j'étais en instance de départ pour le Maghreb pour la coopération, que quelqu'un comme moi, on pourrait l'exhiber comme un monstre de foire. Et que ça, c'était ma famille. Et que donc, ce genre d'histoire est réelle et sérieuse. Hein. Alors, par exemple, jusque dans les années 50, les freaks shows étaient relativement communs aux États-Unis et en Angleterre, popularisés dans les années 1860 par des hommes d'affaires comme Barnum. Les spectacles mettaient en scène des personnes en situation de handicap varié ou dont les caractéristiques physiques étaient considérées comme hors normes. Ainsi, des nains, par exemple, des personnes atteintes de nanisme. Et les spectateurs payaient pour avoir le loisir de les observer et de s'en moquer. Bien que les sévices corporels y étaient interdits, l'effet stigmatisant et avilissant était encouragé par la mise en scène des personnes en situation de handicap, présentées comme des monstres, tant moqués que craints, à mi-chemin entre racisme et validisme. Les spectacles perdront peu à peu de leur popularité, mais ils reposaient déjà sur la précarité de ces personnes, qui étaient alors souvent privées de ressources, réduites à la mendicité ou à l'internement en structure psychiatrique, et qui se retrouvaient parfois recrutées très jeunes. Alors, il faut dire que l'éthique et les droits des patients, ça n'a commencé à émerger que sur la base du procès de Nuremberg, sur les essais médicaux durant la Deuxième Guerre mondiale. En Occident, c'est par là que c'est passé. Hein. C'est par là que les puissances occidentales ont pris des premières dispositions de bioéthique. Hein. Et qu'ensuite, c'est le développement en France tardif des droits des patients, vu le féodalisme médical à partir d'aide, à partir de la problématique du sida. Quoique, on devrait être amené à considérer que les années 70 sur le terrain psychiatrique ont été une première émergence des droits des patients, spécifique à la psychiatrie. En France, dans une moindre mesure, on pourrait citer le fiasco de l'émission Fort Boyard en 2017, qui a tenté d'introduire une nouvelle épreuve dans laquelle les participants étaient mis en camisole de force et enfermés dans une chambre capitonnée, avec en fond sonore des cris et des hurlements. Le format fut rapidement abandonné suite à 160 signalements au CSA, une plainte de l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et handicapées, ainsi d'ailleurs que Johan Silaoui s'était mobilisé, pour agir public et discrimination, ainsi qu'un courrier adressé à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Oserait-on montrer une attraction sur le thème d'une autre maladie, sida, cancer, sclérose en plaques ? Mais le phénomène reste excessivement marginal en France et plus largement en Europe, puisque l'idée y a été battue en brèche par les évolutions de la tératologie aux alentours du XVIIe siècle.
La tératologie, c'est
les monstres, la question des monstres, donc des personnes qui naissent avec...
Oui, siamois.
Et puis après, bon, c'est l'eugénisme, les problématiques de l'eugénisme et l'hygiénisme qui étaient très, très durement prévalents entre la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Il faut savoir que la lobotomie a été très utilisée jusque très tard. Hein. Alors, si aucun de ces spectacles ne mettait directement en scène des sévices physiques et des traitements dégradants, de nombreux films ou œuvres de propagande ont en revanche sans ambiguïté directement exhibé, incité et contribué à la maltraitance des personnes en situation de handicap. À ce titre, difficile de ne pas mentionner la campagne d'extermination systématique menée à leur encontre en Allemagne par le régime nazi entre 39 et 45. Pas qu'en Allemagne, c'est en Allemagne et Europe centrale. En Allemagne, ça a duré un an et demi, puis après, ça a été étendu à l'Europe centrale. Par la pratique pratique de l'euthanasie ou l'astérisation, voire également leur utilisation en tant que cobaye, qui était justifiée idéologiquement par de très nombreuses œuvres de propagande basées sur le concept pseudo-scientifique d'hygiène raciale, lui-même porté par le courant beaucoup plus large d'eugénisme, qui était très à la mode. Il n'y a pas que l'Allemagne, c'était très à la mode, hein, franchement, qui naît à la fin du 19e siècle, courant qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt notable dans le milieu libertarien, dans une forme présentée comme positive, soutenue par des personnalités aussi riches que controversées, comme Elon Musk, Sam Altman ou même Jeffrey Epstein. Mais l'émission Jean Portmanoff n'est pas qu'un spectacle validiste mettant en scène des services physiques et psychologiques interactifs, il constitue en réalité une sorte de matérialisation chimiquement pure de la psychophobie dans sa forme extrême, le Wikipédia, le mentalisme, la psychophobie. Dans sa forme extrême, la psychophobie mène à une catégorisation sociale des personnes entre un groupe autonomisé et supposé normal, en bonne santé, fiable et compétent, et un groupe sans pouvoir, considéré comme malade, handicapé, fou, imprévisible et violent. Cette catégorisation peut justifier des traitements inégalitaires appliqués au second groupe, par comparaison au premier, avec peu de qualité de vie, et pour lesquels il est pourtant attendu qu'ils expriment de la gratitude. C'est-à-dire le statut des personnes suivies en psychiatrie en intra-hospitalier, hein, c'est ça, avec l'intériorisation en extra-hospitalier. Mais en intra-hospitalier, c'est ça. Ce sur quoi insistent les deux auteurs, dès les premières lignes de leur ouvrage, c'est que la psychophobie se matérialise souvent dans notre société par l'utilisation des qualificatifs péjoratifs, voire d'insultes psy-validistes, qui, comme pour le vocabulaire raciste, homophobe ou sexiste, constituent autant de micro-agressions omniprésentes dans la vie courante pour les personnes concernées. Dans le même temps, elle participe à un mécanisme d'autodéfense psychologique par la déshumanisation des actes, utilisé afin de rendre plus abstraite l'idée de commettre des atrocités dans la société, s'empêcher de les penser. Des fois qu'elles nous saliraient, endommageraient notre innocence ou nous contamineraient, c'est un mécanisme humain utile à nos sociétés dites humanistes, mais qui fait l'objet d'une instrumentalisation intensive. Il est d'ailleurs particulièrement présent dans le langage courant, dans la bouche de certains de nos politiques ou même sous la plume de certains journalistes depuis les attentats de 2015. Ainsi, je tiens à signaler que l'autre jour, j'entendais un interview de, je crois, Morandini. Je m'en avais un présentateur télé très connu qui lui disait « Non, mais quand même, les mongolos... Bah, » Attendez, je suis désolé, mais les trisomiques, c'est des gens charmants. S'ils sont mis au monde, on doit s'en occuper. Et ce sont des gens charmants. Et c'est, on n'a pas... voilà, c'est tout. Par ailleurs, les autres qui viennent dire « Oui, mais c'est schizophrénique. » pour stigmatiser tel opposant politique. D'accord ? Ou bien, alors, on nage dans la paranoïa. Enfin, il faut savoir c'est quoi un délire paranoïaque. C'est quoi une personne qui souffre de paranoïa ou qui souffre de schizophrénie ?
Ce sont des termes vraiment utilisés abusivement, souvent.
Et donc, en fait, ça vient... Et puis, à chaque fois qu'il y a un crime, c'est un crime fou. Alors, c'est la communauté des malades mentaux et des millions de personnes qui sont suivies en psychiatrie ou qui l'ont été, qui en prend plein la figure. Bon... Alors, ça, au plan médiatique, c'est très présent. Puis, alors, maintenant, quand on entend les discours de Trump, alors là, lui, sur les fous, les malades mentaux, là, il y va. Hein. Alors, donc, ce vocabulaire contribue à nourrir un amalgame et une assignation des personnes neuroatypiques à des criminels, et à ce titre, bon, ça contribue à la déshumanisation de l'ensemble de la population. Et cela légitime des actes et traitements inhumains commis à leur égard en titre de soins. Parce que c'est... Ainsi, après la mort de Raphaël Gravel, de nombreux commentaires et commentatrices n'ont pas hésité à reproduire ce schéma en utilisant des termes comme dégénéré, malade, psychopathe pour qualifier les auteurs de ces actes, s'empilant par-dessus les torrents d'insultes sanistes qu'utilisaient eux-mêmes les auteurs et les spectateurs pour qualifier les victimes. Parce qu'en plus, après que l'affaire ait été lancée et qu'il y ait une instruction ouverte ou réouverte, il y a eu une bronca des spectateurs de ce live pour que ça dure. Et par là même, ils reproduisent, ces acteurs et les spectateurs, le mécanisme de domination qui rend ce spectacle macabre possible et utilise précisément pour ne pas avoir à penser les motivations qui rendent cette cruauté attractive et rentable. Parce qu'en fait, dans ce live, plus c'était violent, plus c'était humiliant, plus ça rapportait de l'argent. Alors, il faut dire que Raphaël Gravel était payé 6 000 euros, moi. Bon, il en est mort à l'âge de 46 ans. En fait, ils font mine de se présenter comme totalement étrangers à ces crimes, tout en regrettant une sorte de feu qui consumerait la société, non sans avoir eux-mêmes déversé quelques litres de kérosène. Ce schéma de pensée constitue un renversement de responsabilité pervers. Les auteurs et spectateurs sont présentés comme des tarés. La folie est une circonstance atténuante en droit. La société est présentée comme maladie inhumaine. Et les victimes sont insultées puis enterrées sous une couche supplémentaire de discrimination. Stop. On a considéré que les deux auteurs, à savoir Jean Pormanoff et Raphaël Gravin, qui était tué, il a été tué de facto, même si c'est involontaire, et la personne sous curatelle renforcée, parce qu'il y a l'autre qui subissait, est une personne sous curatelle renforcée, ils étaient responsables, parce qu'ils avaient donné leur accord et que ça leur permettait de... Alors là-dessus, il continue à développer son argument, le corps mort, enfin l'inhumanité qui frappe, bien. Donc il continue, il déroule sur la psychophobie. Ah oui, la psychophobie possède un autre aspect excessivement pervers. Elle décrit la peur pour les personnes dites saines d'esprit que leur monde intérieur soit par nature ignorant, méchant, obsédé, sexuel ou égoïste, et que si elles laissent libre cours à leur nature humaine, elles se montreraient certainement grossières, manipulatrices et violentes. En ce sens, elle conduit à la fois à une peur du diagnostic psychologique, psychiatrique ou neurologique, à l'intériorisation de la discrimination pour les personnes diagnostiquées qui s'auto-persuadent qu'elles méritent d'être enfermées, de subir de mauvais traitements, que leur liberté soit entravée, sans oublier la croyance en une humanité fondamentalement mauvaise, qui sans les normes sociales et ses contraintes serait immédiatement condamnée à la folie. Parce qu'en plus, il y a le problème de l'intériorisation parmi les malades, psy, de ces psychophobies. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement virulent. C'est très virulent. C'est très virulent. Donc je continue. Alors oui, l'expression, c'est quand même dingue. Il est possible d'utiliser cette association rhétorique contre tout ce qui semble représenter un danger pour l'idée présupposée de rationalité. Comment ne pas s'interroger sur la santé mentale du débat politique alors que l'apologie de la violence et des discriminations semble quelque chose de tout à fait commun ? Que les conditions d'habitabilité de la planète sont menacées depuis quelques décennies, mais que collectivement plusieurs milliards d'êtres humains marchent chaque jour sciemment vers un déni techno-obscurantiste suicidaire. Que tous les repères politiques et historiques semblent obscurcis par le confusionnisme au point que les mots même perdent leur sens. L'abolition du discernement, l'incapacité à distinguer le bien du mal, qui peut donc aussi traduire l'incapacité à se retrouver sur des valeurs communes, en l'espèce humaniste. Une fois que vous décidez que Donald Trump et sa campagne de déportation de masse se revendiquaient étaient un psychopathe, vous arrêtez l'analyse.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est très vrai.
On dépolitise.
Oui, on dérationalise, on arrête le raisonnement. Oui. On arrête le raisonnement. Oui. Bon, donc après, c'est la déshumanisation. Bon, le biais est quand même très très long. Il est basé sur, comme référence biographique, alors attends, sur un ouvrage anglo-saxon, sur la psychophobie. Enfin, les références, cet article est en libre accès sur Mediapart Club, donc on peut s'y référer. Il fait 7 feuillets dactylo.
Oui, j'ai remarqué que... psychophobie, en anglais, ça se dit mentalisme.
Mentalisme, oui. Voilà. Mentalisme. Voilà. Oui. Oui, c'est ça.
Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une belle cité. On est en talit d'autorité, voici l'appartement. Pour le paiement, tout est réglé, on vous aidera 20 ans, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Pas un seul centime que t'appartiens à la société anonyme. Pour les week-ends on est gentil, on te prête une auto. Elle est graissée, elle est lavée, une 23 chevaux. Ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes on lit très bien le nom de la société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Après 30 ans d'un dur labeur courbé par l'ambition, si même tu finis directeur à monsieur au grand nom, que feras-tu quand t'arriveras le jour de l'addition? Lorsque les gens près de Saint-Pierre ensemble te diront, rien n'est à toi. Il ne vaut pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société. Ah, rien n'est à toi, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société.
Toujours l'Entonnoir sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste, l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec André Bitton du CRPA. Et nous allons continuer dans le domaine juridique avec l'arrêt du Conseil d'État sur le DMP, le dossier médical partagé.
Alors, en quoi cet arrêt est important? Il porte pas seulement sur le dossier médical partagé, mais il contribue à trancher la délicate question du secret médical partagé en institution hospitalière, en espèce. C'est-à-dire que la loi du 26 janvier 2016, la loi Touraine sur la territorialisation de l'hôpital et prestations sanitaires, qui avait créé tout un millefeuille invraisemblable sur le terrain, avait statué sur le secret médical. Le secret médical pour, dans le cadre d'une équipe de soins. Alors, il faut savoir qu'antérieurement, c'est pareil. Dans une équipe de soins, c'était moins corseté, mais maintenant c'est clairement corseté hein, par des textes législatifs, réglementaires, etc. Les membres d'une équipe de soins, y compris stagiaires, avaient accès aux dossiers médicaux des patients. C'est ainsi que dans le cadre d'unité pour malades difficiles ou un service psychiatrique, n'importe quel médical ou paramédical, y compris stagiaire, avait accès aux dossiers. Ça fait quand même pas mal de gens. Alors, le secret médical partagé, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les membres d'une équipe de soins, il faut voir c'est quoi la définition d'une équipe de soins, d'une équipe de prise en charge, ont accès, sous réserve d'un consentement préalable du patient à la base, au départ, puis après le consentement n'est pas réitéré, au dossier médical, d'une part, et d'autre part, qu'elles doivent abonder le dossier médical partagé du patient, sauf si le patient s'y oppose ou ne veut pas de dossier médical partagé. Premièrement. Deuxièmement, ce texte définit au plan législatif, et puis après il y a eu un décret d'application, c'est quoi l'équipe de soins? L'équipe de soins, c'est toute personne participant directement de la prise en charge et qui peut être extérieure à l'établissement, du moment qu'elle participe à la prise en charge, donc c'est les équipes extérieures, le médecin de famille, etc. Et en même temps, il est prévu par ailleurs que des gens participant indirectement à la prise en charge, par exemple les services sociaux, médico-sociaux, ont également accès à ce dossier, mais à chaque accès, il doit y avoir un consentement déclaré du patient. Bon. Et donc là-dessus, il y a par exemple la dépêche Hospimédia fait état d'un commentaire d'un professionnel qui s'insurge contre ce formalisme et qui dit « Comment voulez-vous qu'on fasse? Il y a trop de formalisme, on doit demander n'importe quoi, on ne peut pas opérer, et puis dans le cas d'urgence, etc. etc. » Toujours est-il que ce qu'on s'aperçoit, c'est que, c'est que le législateur, puis le pouvoir réglementaire, donc l'exécutif, les services techniques, puis maintenant les juridictions, ont donc légiféré, réglementé et assis un secret médical partagé pour un nombre énorme de personnes, ce qui en psychiatrie, alors qu'en plus il y a le décret OPSI-Web, des personnes fichées tous axes quand elles sont en soins sans consentement, qui est croisé avec le fichier terrorisme, en cas de connexion, ça revient à dire qu'il n'y a plus de secret médical. Ou alors on doit comprendre que ce secret médical existe encore, mais est levé pour 350, 400, 500, 700, 800 personnes. Oui. C'est-à-dire qu'on en revient toujours à la bonne vieille équation que les gens qui ont connu l'internement loi 1838 ont bien connue. C'est-à-dire que quand ils sortaient, moi ça m'est arrivé, quand on sortait de l'internement loi 1838, Tout le monde était au courant que vous étiez un schizophrène patenté, sauf vous. Parce que le secret médical, c'était à vous qu'il était opposé. Bon, donc alors reprenons un peu cette discussion. Que dit la dépêche Hospimédia à ce sujet du 23 octobre ? Le Conseil d'État annule le décret fixant les règles d'accès au dossier médical partagé en ce que l'annulation est prononcée, en ce que il n'est pas prévu de façon suffisamment précise que le consentement du patient pour l'équipe périphérique en dehors de l'équipe de soins, que ce consentement doit être requis à chaque accès, que donc il doit y avoir une garantie supplémentaire. Et alors le mieux, et ça je vous le dis au passage, c'est que s'agissant d'arrêt de principe, le Conseil d'État, la juridiction administrative, décide que un extrait, comment dire, le résumé de cette décision est publié au Journal officiel. Moi, j'ai eu connaissance, je dois dire, de cette décision, d'abord parce qu'elle était publiée au Journal officiel, puisque j'ai une veille sur le Journal officiel, et je vais d'ailleurs en donner lecture. Voilà. Le JO du 15 octobre 2025, Conseil d'État statuant au contentieux, version initiale, 4 lignes. L'arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article, etc., etc., est annulé en tant seulement qu'il omet de mentionner l'obligation de recueil du consentement initial du patient, préalablement à l'ouverture de l'accès à son dossier médical partagé à l'ensemble des membres de l'équipe de soins qu'il prend en charge. Préalablement à l'ouverture de l'accès à son dossier médical. Voilà. Alors, en plus, je me suis trompé, désolé, ce n'est pas un décret qui est attaqué, c'est un arrêté. Alors, donc reprenons la dépêche d'Hospimédia. Hospimédia, ils ont cette discipline de la synthèse. Ces journalistes de dépêche, d'agence de presse, c'est parmi les meilleurs qui soient. Ils ont une discipline. Maintenant, ils sont menacés par l'intelligence artificielle. Mais c'est parce qu'ils apprennent à synthétiser des trucs extrêmement profus en deux pages. C'est une véritable discipline. Moi, je trouve que quand on veut rédiger quelque chose de synthétique, il faut prendre modèle sur eux. Alors, donc la dépêche. Le ministère de la Santé et de l'Accès aux Soins va devoir revoir sa copie. Dans une décision rendue le 15 octobre et parue dans l'édition du 19 octobre du Journal officiel, le Conseil d'État annule partiellement l'arrêté du 26 octobre 2023 qui précise les règles de droit d'accès au dossier médical partagé. C'est la mention du droit d'accès à l'équipe soignante élargie qui est annulée. Ce n'est pas l'équipe de soins. L'équipe de soins élargie. Et donc, la mention du droit d'accès à l'équipe élargie est annulée en tant seulement qu'elle omet de mentionner l'obligation du recueil du consentement initial du patient préalablement à l'ouverture de l'accès à son dossier médical partagé à l'ensemble des membres de l'équipe de soins qu'il prend en charge. Si le dossier a été remis à l'ordre du jour, le Conseil d'État a déjà dû se prononcer sur les modalités d'accès au dossier médical partagé en juillet 2024, mais a alors décidé de renvoyer le dossier au Conseil constitutionnel. Il y avait eu une QPC. Et le Conseil constitutionnel avait confirmé sa légalité. On en avait parlé ici. Le Conseil d'État a cette fois-ci accédé à la demande du Conseil national de l'Ordre des médecins. Le requérant, c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a demandé l'annulation partielle de cette partie du texte, considérant qu'il relevait d'un excès de pouvoir. La décision impose au ministre de la Santé de revoir le texte. Il y a un problème de hiérarchie des normes. C'est que, heureusement que c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a saisi le Conseil d'État, parce qu'il n'est pas évident qu'un arrêté soit un texte à valeur réglementaire. C'est un arrêté, c'est un texte à valeur infra-réglementaire qui n'est pas, par essence, qui ne porte pas grief par essence. Un arrêté, c'est un texte d'exécution par rapport à un décret. Le décret porte grief, ok, mais l'arrêté, non, en hiérarchie des normes. Mais enfin, là, étant donné le requérant, le Conseil national de l'Ordre des médecins, le Conseil d'État s'en est saisi. Dans sa version attaquée, il étendait l'accès au dossier médical partagé et considérait d'office comme réputé autorisé à y accéder les professionnels membres de l'équipe de soins aux conditions que le patient soit informé et ne formule pas d'opposition. Il faut dire que la loi Touraine et le décret d'application avaient quand même introduit cette garantie qu'on puisse s'y opposer. C'est-à-dire que si vous êtes hospitalisé en psychiatrie dans un hôpital, vous pouvez vous opposer à ce partage de l'information. C'est déjà ça. Encore que, en psychiatrie, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Parce que si vous émettez un droit d'opposition quelconque, vous dire que vous êtes en paranoïa, que vous êtes en crise paranoïaque. Seuls les professionnels non membres de l'équipe de soins du patient devaient recueillir le consentement explicite du patient à chaque consultation de son DMP. Seuls les professionnels non membres de l'équipe de soins. Le Conseil d'État a estimé que dans ces conditions, l'auteur de l'arrêté a commis une erreur de droit. Alors, je voudrais quand même donner à lire, il y a eu une réaction sur Hospimedia d'un médecin qui est scandalisé par ce formalisme. Comment voulez-vous qu'on travaille dans des conditions pareilles ? Donc enfin, sachez-le, pour revenir sur cette blague que j'avais sortie en 2018, je crois, sur le secret médical en psychiatrie. Le secret médical a été opposé, a été mis en place et créé pour être opposé aux patients.
Oui, et pas pour le protéger comme il semble.
Oui.
Eh bien, maintenant, on entre dans le monde des neurosciences avec un article de Chantal Henry.
Alors, une interview Sandrine Cabu du Monde, de la psychiatre Dr Chantal Henry, psychiatre qui déchiffre les émotions des personnes dépressives et qui bosse apparemment au centre expert Créteil. Finalement, c'est au GHU, à Sainte-Anne, dans le sens fondamentaliste, donc fondamental. Donc, inspirée par sa double expérience à l'hôpital et en laboratoire, cette spécialiste des troubles de l'humeur propose une approche originale pour traiter de façon plus personnalisée la dépression et la bipolarité. Il y a beaucoup de façons de lutter contre les extrêmes. Celle de Chantal Henry est de ramener ses patients à une certaine banalité, la normotimie en jargon médical, d'être normal au plan humoral. Ses patients, principalement des personnes souffrant de dépression résistante ou de maladies bipolaires, dans les phases de dépression, ces dernières tombent très bas, avec une incapacité à fonctionner, penser, se mettre en action. Et dans celles d'exaltation dite maniaque, elles montent très haut, avec une énergie formidable, des émotions plus fortes, un besoin réduit de sommeil. Liste, la psychiatre et chercheuse dans son bureau à l'hôpital parisien Sainte-Anne, GHU, où elle travaille depuis 2019. Un pied dans ce berceau de la psychiatrie moderne, où Jean Delay et Pierre Deniker ont découvert les effets antipsychotiques du Largactyl en 1952, et où est désormais proposée en routine ou en essai clinique une palette complète de thérapies, y compris psychédéliques et de neuromodulation. Car il est de nouveau à la mode de prescrire des hallucinogènes pour des troubles résistants. L'autre à l'Institut, donc un pied là, l'autre à l'Institut Pasteur, dans l'unité CNRS, perception et action du neuroscientifique Pierre-Marie Liedo, elle concilie clinique, enseignement et recherche. Pour mieux comprendre ces douleurs de l'âme que sont les troubles de l'humeur, qui la fascinent depuis plus de 30 ans, elle mène des travaux innovants, passant des humains aux rongeurs. Avec deux objectifs principaux, réduire, on devrait faire un aller-retour, des humains aux rongeurs et des rongeurs aux humains, quand même. Avec deux objectifs principaux, réduire l'errance thérapeutique, 7 à 10 ans pour les maladies bipolaires, et proposer des prises en charge personnalisées. Elle a deux ennemis, la stigmatisation et les idées fausses. Ce sont les deux principaux freins à l'accès aux soins. Dans le grand public, la dépression est un état de tristesse. Et comme tout le monde a ressenti de la tristesse, tout le monde pense savoir c'est quoi la dépression. Avec l'idée de secoue-toi, va te distraire et va sortir. Et comme je le dis souvent aux étudiants, la dépression c'est une maladie qui tue, un bug ponctuel du cerveau. Quand ils parlent de dépression, ces gens-là, ils parlent de la dépression atonique où la personne s'effondre. C'est ce qu'on appelle une dépression. La personne s'effondre et reste immobile comme ça. Approche sensorielle. Depuis quelques années, ce sombre paysage s'éclaircit. Enfin, on a la vérité, je rajoute. De plus en plus de patients prennent la parole, ce qui est vrai, et je les remercie car c'est courageux. Et ça a bien plus d'impact pour changer le regard que le topo d'un professeur. C'est vrai que le bouquin de Demorand a beaucoup d'impact, ça, c'est sûr. Beaucoup ont ainsi découvert les chaos intérieurs de la bipolarité, mais aussi de nouvelles thérapeutiques, voire le récit intérieur nuit, les arènes 112 pages, 18 euros, du journaliste Nicolas Demorand. Au-delà du regard, c'est la conception même de ces pathologies et le parcours des patients qui entrent dans une nouvelle ère grâce aux travaux de Chantal Henry. Sa démarche pour comprendre les troubles de l'humeur par le biais des approches sensorielles, c'est presque de la déconstruction. Assure Pierre-Marie Liédot, qui l'a connue à Bordeaux il y a une trentaine d'années quand elle était interne en psychiatrie et lui étudiant dans le laboratoire du neurobiologiste Jean-Didier Vincent. À l'époque, la gersoise d'origine, qui s'était lancée dans des études de médecine pour devenir psychiatre, passionnée par les écrits de Freud, avait déjà attrapé le virus des troubles de l'humeur auprès de son chef Marc Bourgeois, un virus qui ne l'empêchera pas de faire sa thèse de neurosciences, sur un tout autre sujet, l'approche psychobiologique du modèle animal du stress prénatal, dirigée par Robert Danzer, pionnier de l'immunopsychiatrie. En 2008, elle quitte le CHU de Bordeaux pour suivre Créteil, où elle est devenue chef de service dans le centre fondamental Créteil, tenu par Marion Le Boyer, à l'époque, et maintenant par le docteur Pellissolo. Bien. Donc, centre expert, fondation fondamentale pour la maladie bipolaire, la dépression résistante, mais aussi la schizophrénie et troubles autistiques. Ce modèle, alors inédit, propose aux patients des bilans complets et des recommandations thérapeutiques personnalisées et permet d'homogénéiser la recherche. Moi, j'ai pas intérêt à y aller, parce que si j'en ai un, si je suis allé me faire dépister, mon Dieu. Alors, amour des neurosciences. À Paris, Chantal Henry retrouve des chercheurs qu'elle avait connus à Bordeaux, Jean-Didier Vincent, etc. On était un petit club d'épicuriens, on se réunissait, eux étaient épicuriens, ils se réunissaient le dimanche autour d'un bon dîner, etc. Quand les malades, il faut voir comment ils se réunissent. Bon, en 2015, revenant à ses premières amours des neurosciences, la psychiatre bascule même à temps plein dans le laboratoire Liédot, l'Institut Pasteur, pendant 4 ans, bon, etc. Au cœur de ses recherches, l'étude de l'altération des réponses émotionnelles, désormais reconnue comme une caractéristique essentielle des troubles de l'humeur. Avec cette logique, elle a mis au point une échelle clinique, Matisse, et identifié il y a une vingtaine d'années deux sous-types de dépression dans la bipolarité. Dans celui associé à une hyporéactivité émotionnelle, les patients deviennent indifférents à leur environnement. En cas d'hyperactivité, ils sont submergés par des émotions très pénibles, etc., etc. Une distinction pas toujours faite par les cliniciens et qui a pourtant des conséquences thérapeutiques, les premières relevant d'un traitement antidépresseur, quand les secondes réagissent mieux aux antipsychotiques ou aux stabilisateurs de l'humeur. De toute façon, la thérapie souche chez les médicaments. Point.
Toujours.
Toujours. Et on voit ce que ça donne maintenant à un service de psychiatrie, tu vois. Parce que là, ce n'est pas les différences chiadées qui sont faites. Contrairement à l'approche classique dite catégorielle des troubles psychiatriques, comme celle du DSM, les recherches de Chantal Henry s'inscrivent dans une approche dimensionnelle qui quantifie de façon objective des paramètres cliniques ou biologiques. C'est le cas des émotions, réponses brèves et adaptatives à un stimulus de l'environnement qui peuvent être mesurées dans deux dimensions, leur intensité et leur valence hédonique. Agréable ou désagréable. Tiens, tu vois, si on tombe bipolaire parce qu'on s'est fait massacrer dans sa vie, qu'on s'est fait violer, etc., avec administration de drogue, etc., elle va venir avec de façon hédonique, une chiadée, etc., puis on va évacuer ce qui s'est passé. Toute la dimension sociale, environnementale va être évacuée. On est dans la biologie, dans la neurobiologie, c'est tout. Donc, en utilisant des tests de préférence olfactive chez un modèle de souris avec dépression, là on y va, la psychiatre et ses collègues ont retrouvé le même biais négatif que dans les dépressions humaines. Les animaux déprimés sont moins attirés que leurs congénères par les odeurs normalement plaisantes, urine de femelle pour un mâle, et plus fortement repoussés par les odeurs de prédateurs. Surtout, leurs expériences, publiées en 2024 dans Transnational Psychiatrie, ont pu éclairer les mécanismes à l'œuvre dans le cerveau des rongeurs, mettant en évidence des perturbations de circuits neuronaux spécifiques dans l'amygdale, à la base du cerveau, ce petit noyau qui joue un rôle central dans nos émotions. Chez les souris déprimées, les neurones codants pour les stimuli négatifs sont hyperactivés, quand ceux codants pour les stimuli positifs sont hypoactifs. S'enthousiasme Chantal Henry. En suractivant ces derniers, les chercheurs ont partiellement corrigé le biais de négativité des rongeurs et amélioré leur comportement dépressif. Vision transversale. Les antidépresseurs peuvent-ils restaurer l'activité des neurones de l'amygdale? Peut-on éventuellement prédire leur efficacité? C'est désormais ce qu'explore l'équipe de Chantal Henry dans une nouvelle étude appelée EMOCET. Elle prévoit d'inclure une centaine de patients avec une dépression résistante traités par esquétamine, un nouvel antidépresseur d'action rapide proche de la kétamine. Stupéfiant, La kétamine est un stupéfiant, hein, administré en intranasal deux fois par semaine pendant 4 semaines. Ils sont comparés à des volontaires sains. Une batterie d'examens est prévue avant, pendant et après le traitement. Évaluation clinique poussée, IRM, l'imagerie fonctionnelle, lors de tâches émotionnelles, mais aussi tests de réactivité émotionnelle, faisant appel à l'odorat et au morphing du visage, technique d'animation numérique permettant de transformer progressivement l'expression faciale. Bon, donc, Chantal Henry est très proche de la clinique, c'est cela qui nourrit sa réflexion et sa recherche. Salut Chloé Mu, psychologue et doctorante en neurosciences, dont les travaux de thèse s'appuient sur l'étude des moquettes. Son travail pionnier, avec un va-et-vient entre le fondamental et la clinique, inspire les jeunes qui ont le souci d'une vision transversale et d'aborder la psyché de façon objective et quantifiable. À sa palette d'outils de soins, la professeure Henry a récemment ajouté une nouvelle discipline, la tanzanothérapie. Nom de son livre publié en mai, Fayard, 248 pages, 21 euros, en quête d'apaisement. Elle était partie en voyage en Afrique australe avec sa fille et pour la première fois sans ordinateur. À sa grande surprise, ce décor lui a permis de se reconnecter presque instantanément à ses sens et pour une fois se recentrer sur ses propres émotions. Le récit de cette expérience introspective, postcoloniale quelque peu, sonne aussi comme une mise en garde contre la surstimulation constante du cerveau dans les sociétés modernes. Un douzième ouvrage est en gestation, inspiré par les grands singes du Rwanda, mais aussi par la folie meurtrière qui s'est emparée de ce pays en 1994, faisant 1 million de morts en 3 mois. Elle, qui depuis des années fantasme sur l'écriture, a contracté un nouveau virus. Donc les grands singes de l'Afrique australe, qui sont normalement préservés parce qu'il y a un accord mondial pour préserver quand même ces primates, vont servir de nouveau terrain pour une nouvelle thérapie, la tanzanothérapie. Alors écoute, hein, moi quand on lit ces choses-là, on se dit qu'on a pris un tournant dans la psychiatrie moderne qui est quelque peu à combattre.
Oui, alors après, je ne suis pas... des expérimentations avec des produits comme proches de la kétamine ou des choses comme ça. Il faudrait voir aussi si c'est pas, c'est pas forcément plus dangereux qu'un traitement de neuroleptique, finalement.
Ce qu'on voit pas, c'est qu'on est dans cette pente où on a eu, par exemple, nous, au groupe Information Asile, quelqu'un qui avait connu une décompensation sur des antidépresseurs. Hein. C'est-à-dire qu'on administre, on est dans un cercle vicieux. Alors, on administre des antidépresseurs qui sont finalement psychostimulants. Donc, la personne fait un virage maniaque. Puis alors, on va traiter ce virage maniaque. Etc.
Oui, oui, une sorte de contrôle de la...
C'est tout. Oui. C'est une course à la surmédication. Mmh. Et au bout d'un certain temps, on va constater que la personne est devenue pharmacorésistante. Et par rapport à la pharmacorésistante, là, on en connaît, il y a des drames là-dessus, on va continuer à aller dans un jump. Continuellement. On va grimper encore, on va faire une escalade dite thérapeutique, alors que ce serait peut-être l'inverse qu'il faudrait faire, c'est des fenêtres thérapeutiques, et ces fenêtres thérapeutiques devant être, et puis alors surtout, c'est que quand on a un biais strictement biologique, on évacue le reste. L'environnement, la famille, la société. Parce que bon, quelque part, il faut revenir à cette définition de base. Les troubles, comme le dit si bien la Convention des Nations Unies sur le handicap et le CDPH, le Comité des droits des personnes handicapées, ils ont un concept qui est opérationnel. On est bien là sur un terrain de troubles psychosociaux. Pas psychobiologique, c'est pas purement biologique. On n'est pas sur une lésion, on n'est pas sur une atteinte du foie ou quoi. On est sur des pathologies qui se déclenchent dans un environnement précis.
Et pour finir, une annonce ou deux. Alors d'abord, le vendredi 1er novembre 2025, Drôle d'oiseau, un spectacle écrit et mis en scène par Julien Béret. Alors c'est du théâtre, c'est de la musique, c'est de la poésie, c'est de la performance. Julien Béret, Fabrice Clément, Vincent Tudos. Et ça se passe au théâtre Le Colombier, 20 rue Marianne Colombier, à Bagnolet, dans le 93, métro Gallieni. ligne 3. Alors oui, cette performance, poésie et théâtre théâtral et musical, si j'en fais la publicité, c'est organisé, créé par des personnes qui sont concernées et qui font partie par exemple du GEM des gens du 110 à Montreuil. Mais aussi, c'est et surtout, on le recommande ici parce que c'est un spectacle d'une bonne qualité et avec des textes formidables. Voilà. Autre événement, mais alors c'est plus dans la région parisienne, c'est plus à Bagnolet, mais c'est à Marseille. Alors c'est la projection de Dope is Death. Le mercredi 5 novembre 2025 à 19h30 au Vidéodrome 2, projection du documentaire Dope is Death en version originale sous-titrée. En 1973, le docteur Mutulu Shakur a créé le premier programme de désintoxication par acupuncture aux États-Unis avec les Black Panthers et les Young Lords. Ce documentaire retrace la création de la clinique d'acupuncture et explique comment cette forme de réduction des risques radicale a constitué un acte révolutionnaire contre les programmes gouvernementaux destinés aux communautés noires et racisées du sud du Bronx. Diffuser ce documentaire aujourd'hui, c'est partager un bout de l'histoire des luttes, des soins et de leur appropriation. C'est voir une recrudescence d'intérêt pour le protocole NADA, le remettre dans son contexte et étendre aussi sa capacité à accompagner diverses souffrances et divers troubles. Malgré le titre, disclaimer, comme elle dit, malgré le titre, ni le documentaire, ni cette projection ne vise à juger ou discriminer la prise de prod, ou les usagers et usagères, et ou les addictions. S'il fallait que ce soit dit. La projection sera suivie d'une discussion. Oui, le titre donc, Dope is Death, et ce sera donc au Vidéodrome 2 à 19h30 le samedi 5 novembre 2025, et c'est à Marseille. Voilà, c'était l'entonnoir. À tous ceux et celles qui nous ont écoutés, merci de nous avoir écoutés, et nous vous disons à la semaine prochaine. J'enchaîne avec des annonces Radio Libertaire Fédération Anarchiste, une principalement, mais qui en comporte plusieurs. C'est trois infos antimilitaristes sur la région parisienne. Alors il y aura dimanche 2 novembre Radio Libertaire en direct de la librairie Publico de 14h à 18h avec trois tables rondes. Donc, trois tables rondes en direct sur Radio Libertaire, dimanche 2 novembre de 14 à 18h30, sur des ouvrages antimilitaristes qui font partie des dernières publications des éditions du Monde Libertaire, en présence de René Berthier, Hélène Hernandez et du réseau MACNO. Il sera évoqué la militarisation de la jeunesse et de la société en présence de Christian Mailleux de Solidaire et de Léonard de CNT Éduc 93. Et puis notre table ronde sur l'actualité de la menace nucléaire, lien nucléaire civil et militaire, Japon, Iran, en présence de Yuki Takahata, association Yosomono, et Nader, groupe Commune de Paris de l'AFA. Donc dimanche 2 novembre. Mardi 11 novembre, pour la paix contre toutes les guerres, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec la Fédération anarchiste, la Libre-Pensée, l'Union pacifiste de France, l'Organisation communiste libertaire, la Cité des droits des femmes, le syndicat unifié du bâtiment région parisienne CNTF, la coordination régionale antinucléaire Île-de-France, le SAT Amicaro. Dès 14h, rassemblement, place de la République, avec table de presse, prise de parole, chansons avec Dio, Pascal Loquin, Justine Jérémy et Nathalie Solens, et la liste égrenée de tous les travailleurs morts au travail pour l'année par sub-RP CNT. Donc sub le syndicat du bâtiment. Et voilà pour le mardi 11 novembre, 14h, place de la République. Et enfin, samedi 15 novembre, à 16h, Ciné Segui, une projection débat. Les hommes contre, point de suspension. Oui, c'est Ciné Segui, c'est organisé par le groupe Salvador Segui de la Fédération anarchiste. Et ça se passe à Rue Hemelot, donc la librairie du monde libertaire. Les hommes contre, un film de Francesco Rosi, Italie, 1970. Chaque 11 novembre est l'occasion de commémorer la fin de la boucherie de 14-18. Si pour certains il s'agit de rappeler les exploits guerriers de telle ou telle armée, pour d'autres il ne faut pas oublier de souligner que des mutineries, désertions, automutilations eurent lieu pour refuser de servir de chair à canon. Nombre de livres et films ont traité ce sujet, comme cette œuvre du réalisateur italien Francesco Rosi, qui revient sur un épisode moins connu du front des Alpes entre troupes italiennes et autrichiennes. L'occasion de voir l'imbécilité et l'inutilité de combat pour conquérir une colline ou 100 mètres de terrain au prix d'innombrables victimes envoyées à la mort par des généraux soucieux uniquement de prestige et de gloriole. Le